Nous sommes malheureusement tenus par l'horaire, donc il va nous falloir quitter ce monde chinois fascinant à bien des égards. Et c'est maintenant Violaine Sébillotte-Cuchet qui va faire sa communication. La question du genre et des femmes, c'est quelque chose qui la préoccupe depuis bien longtemps. Elle a notamment édité un livre sur le problème du genre en Grèce ancienne en 2007. Elle a coédité en 2011 un livre sur hommes et femmes dans l'Antiquité grecque et romaine, qui a été réédité peu après, d'ailleurs, dès 2017. Et aujourd'hui, elle va nous parler des détentrices de charges dans les cités grecques du 5e. Voilà, il y a un titre un petit peu différent de ce qui est dans le programme, que je découvre en même temps que vous. Donc, point de vue croisé, et avec un focus, comme on dit maintenant, sur la gouverneur de Léolide en 410. Eh bien, on va tout de suite en savoir davantage. Merci.
Merci, Dominique. Merci beaucoup. Effectivement, étant donné le temps qui nous est imparti, je me trouvais ça trop difficile, finalement, de présenter. Enfin, en tout cas, ce titre était trop ambitieux. Et je vais faire ce focus sur Mania. Alors, je pense que Mania, peu d'entre vous la connaissent. C'est une femme qui a... Attendez que j'arrive à trouver le... Voilà. Une femme qui a vécu dans une cité grecque de la côte sud de l'Hellespont, c'est-à-dire la côte sud de l'Hellespont, c'est-à-dire qu'on est... voilà, je l'ai noté ici. Ici. On est dans le détroit des Dardanelles, hein, sur le côté asiatique, et elle a vécu à la fin du 5e siècle. Elle est morte au tout début du 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mania, donc je vais prendre la carte ici, elle vient donc de la cité de Dardanos, ici. Ce qui est intéressant, c'est que cette Mania, qui est présentée comme qui est une veuve, quand on commence à nous parler d'elle, la veuve d'un dénommé Zénis, qui est, elle apparaît comme une reine, il n'y a pas de titre, hein, je reviens dessus, de Dardanos, et elle intervient pour convaincre le satrape Pharnabaz, donc le satrape, le représentant du grand roi perse, on est dans le contexte de l'Empire achéménide. Elle va le convaincre de lui confier le gouvernement de la région, pas simplement sa cité, mais la région qui l'entoure. Et ce gouvernement qui, auparavant, était détenu par son époux Zénis. Un peu assez classique. Cette histoire, elle nous parvient par Xénophon dans les Helléniques, donc au livre 3. Et je vous donne le contexte très brièvement. Dans cette région, donc dans les années fin du 5e siècle, tout début du 4e siècle, on est à la fin de la guerre du Péloponnèse, et ces cités-là étaient des cités qui, de gré ou de force, faisaient partie de la Ligue de Délos, donc de la Ligue athénienne. Donc n'étaient pas forcément sous l'emprise des Perses. Donc là, il y avait un jeu de rivalité des rapports de force dans la région. Les Perses soutiennent à la fin de la guerre les Spartiates. Les Spartiates remportent la victoire sur les Athéniens à Aigospotamos. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un petit peu qui est-ce qui va ramasser les miettes du gâteau. Et donc, les Spartiates interviennent en particulier en 399. Il y a une expédition qui est envoyée par Sparte et qui est commandée par Dercylidas dans cette région pour libérer les cités grecques, soit des Perses, soit, surtout, en général, des Athéniens, mais aussi de Pharnabaz, qui lui-même, en tant que satrape, peut vouloir aussi conserver ou récupérer d'autres cités. Et enfin, cette histoire se termine, Mania est assassinée par son gendre, Médias, et ceci, donc, c'est vers 399, au moment où Dercylidas arrive. Voilà, rapidement. Alors, pourquoi je suis intéressée par cette histoire et pourquoi je m'en suis servie pour vous présenter la réception que les Grecs pouvaient avoir de ces femmes détentrices de charges dans des cités. Pourquoi ? Parce que dans une édition toute récente des Helléniques, l'éditeur moderne, une édition de 2018, hein, l'éditeur moderne commente dans une note de bas de page, toute petite note, cette anecdote. On sait Xénophon friand de détails exotiques, qu'une femme soit à la tête d'une province était surprenant pour un Grec. Donc, vous voyez, c'est un petit commentaire très bref, très prudent, pourrait-on dire, mais qui illustre le sentiment dominant dans nos études une société patriarcale, on l'a dit, comme celle des cités grecques, elle n'échappe pas à la règle, n'aurait pas fait place aux femmes, et n'importe quel citoyen de l'époque ne pouvait donc être qu'étonné par la situation de Mania, gouverneur d'une petite province du nord de l'Asie mineure. La brièveté du commentaire suggère aussi le peu d'intérêt pour le sujet des femmes. La question n'est pas creusée. On passe ensuite à autre chose. Il n'y a rien d'autre sur Mania. Alors, la question que je me pose, c'est la suivante. Qui est le plus surpris ? Xénophon, figure d'un citoyen lambda de l'Antiquité, ou l'érudit moderne ? À mon avis, pas de suspense, l'érudit moderne. Et pour le montrer, je vais évoquer les résultats des recherches récentes qui, depuis les années 1990, attestent la présence de femmes détentrices de pouvoir dans un contexte hellénophone. Et j'analyserai ensuite la manière dont Mania semble avoir été perçue par ses contemporains, ceci en suivant le texte de Xénophon. Donc, je vais revenir sur le texte. Et enfin, je tenterai d'expliquer les raisons de la surprise de l'érudit moderne. Alors, pour commencer, moi, je vais peut-être un petit peu vite, mais enfin, tant pis, je laisse, j'enlève. Pour commencer, nous connaissons des femmes détentrices de charges dans les cités grecques grâce à plusieurs dossiers. D'une part, la poésie épique, peut-être vous connaissez, la poésie tragique, l'historiographie antique, l'épigraphie civique, les traités philosophico-historiques, comme ceux de Plutarque également. Or, ces dossiers ont rarement ou jamais été mis en relation les uns avec les autres, en raison de leur appartenance à divers genres discursifs, à diverses périodes de l'histoire grecque antique, et donc à divers contextes historiques. Or, tous, d'une manière ou d'une autre, documentent la présence de femmes dans des positions d'autorité, autrement dit, détentrices de ce qu'on appelle l'arché. Alors, l'arché, en grec, donc c'est une notion très large qui désigne à la fois l'origine, le principe, le commandement, l'autorité. Et de ce terme dérive le terme archon, qui signifie le chef. Selon les cités, ce terme peut désigner de manière générique toutes les magistratures, et on emploiera à ce moment-là plutôt le pluriel, archai, les magistratures civiques, ou de manière spécifique seulement certaines d'entre elles. Et on connaît les archontes, par exemple, à Athènes. Alors, après, la question de la définition des magistratures, qu'est-ce qu'on appelle les archai, qu'est-ce que ça représente, c'est sujet à débat, y compris dans l'Antiquité, et je reviendrai. Autre élément. On sait aussi par un article, enfin, depuis, disons, je vais employer l'adjectif, un article pionnier de 1994, François Kirbiller indiquait plus de 200 femmes magistrats et liturges connues dans les cités grecques à partir d'Auguste et majoritairement en Asie mineure, donc dans notre région. Il notait l'importance des données livrées par la numismatique aussi. Et surtout, ensuite, l'ouvrage fondamental de Ried van Bremen en 1996 sur l'Asie mineure a livré pour sa part plus de 400 entrées, avec un recensement par région et avec une chronologie affinée qui commence au IIe siècle avant Jésus-Christ, période hellénistique, et qui s'arrête au IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où la pratique épigraphique s'interrompt. Alors, la disproportion numérique entre les magistrats et les magistrates, je vais le dire au féminin, elle est flagrante. Je prends l'exemple, peut-être un exemple représentatif, c'est le comptage qui a été effectué par Ramsay MacMullen en 1980 à partir de monnaies en bronze qui étaient frappées dans les cités grecques d'Asie mineure pendant la période impériale et qui donnait les noms et les titres de 17 femmes magistrates pour 214 hommes. Donc, disproportion évidente qu'on pourrait... Il ne faut pas faire les chiffres qu'on pourrait généraliser. Mais le fait est là. Des épitaphes, des dédicaces, des décrets honorifiques montrent, ou des monnaies, montrent que des femmes ont eu accès à des charges, au moins les titres, des charges qui procuraient donc, sinon du pouvoir, au moins une grande dignité à leur détentrice. Nous connaissons aussi... Et là, je me tourne aussi vers Anne Billman, qui a participé à toute cette mise en valeur de ces femmes qui détiennent des titres et qui ont des fonctions dans les cités grecques. Nous connaissons aussi donc des femmes qui portent les titres donc de reine, de prytane, de démiurge, d'hipparque, d'archontesse, de secrétaire, etc. Donc des noms qui parfois d'ailleurs ne sont pas féminisés, qui sont utilisés au masculin ou au féminin. Nous connaissons aussi des titres qui ressemblent plutôt à des liturgies, c'est-à-dire des fonctions avec des aspects financiers, on va dire, de patronage, agonota, gymnasiarque, stéphanophore, etc., qui sont les mêmes titres que pour des hommes, et souvent aussi qui semblent liés à des fonctions dans le domaine religieux. Petite parenthèse, quand je dis, vous voyez, j'hésite sur les fonctions qui sont associées à ces titres, on n'en sait pas plus pour les femmes que pour les hommes, en réalité. Donc, ce n'est pas spécifique aux femmes, qu'on ne sache pas grand-chose sur les fonctions. Le fait que les charges publiques, dont on a ici les intitulés, les titres, mettent en interférence les domaines religieux, économiques, administratifs et militaires, c'est un fait qui est relevé par tous les spécialistes, n'est pas une surprise. Les Athéniens, au IVe siècle, englobaient déjà dans un même lexique au contour, donc, je vais dire, flou et discuté entre eux, ce qu'ils appelaient les archaïs, mais aussi les timaïs, ou même épiméléiaï, c'est-à-dire des termes qui renvoient à des charges publiques, à des dignités, à des fonctions de soins des divinités ou de soins de la communauté. Et les débats existaient, puisque Échine, par exemple, montrait qu'il y avait un débat sur qu'est-ce qu'on appelle une charge, qu'est-ce qu'on appelle une dignité. De même, Aristote, qu'est-ce qu'on appelle une charge, qu'est-ce qu'on appelle des dignités, timaï, archaï, est-ce que c'est la même chose? Et c'est essentiellement Aristote, mais ce n'est pas le lieu de le discuter ici, mais c'est pour vous montrer que le débat existe, essentiellement Aristote, qui distingue ce qu'il va appeler les politikai archaï, les magistratures que nous on traduit politiques, mais que souvent l'éditeur, les traducteurs traduisent par les magistratures politiques ou les hautes magistratures. Bon, il y a des débats et une hiérarchie qui se met en place, mais c'est à l'intérieur d'un débat, en fait, au sein de la cité du IVe siècle. Ce n'est pas du tout quelque chose que tout le monde, sur lequel tout le monde s'entendait, justement pas. Les charges évoquées par les inscriptions d'époque hellénistique et impériale résonnent également avec un autre dossier qui est bien connu et pourtant toujours, souvent traité à part, je dirais toujours, mais bon, celui des fonctions occupées depuis longtemps déjà par des citoyennes dans le cadre des cultes civiques. Et comme le résume Stella Yorgoudi, une longue liste de titres indiquant des offices ponctuels ou réguliers témoigne d'une activité cultuelle riche et variée exercée par des femmes, des plus jeunes aux plus âgées, dans le cadre de nombreux cultes civiques, et ceci dès l'époque classique et depuis qu'on a en fait des attestations, y compris textuelles, je veux dire littéraires. Alors, il est évidemment tentant de mettre en relation l'histoire de Mania, je reviendrai, je vous ai cité en introduction, gouverneur, avec un E, dans la région de Dardanos, avec celles dont, avec ces femmes dont on connaît souvent simplement le nom ou le titre, peu de choses de plus, grâce aux monnaies, aux épitaphes, aux décrets honorifiques. Par exemple, je ne vous avais pas mis la citation, voilà. Par exemple, Von Bremen, dans son annexe, cite une Claudia qui était hyparque, c'est un terme important, qui avait le titre d'hyparque, à Cizik, donc dans la même région de l'Hellespont, au 1er siècle après Jésus-Christ. Chez Xénophon, notre Mania, elle est désignée comme hyparque. Le terme, c'est le même. Donc, vous voyez, il est tentant de mettre en relation ce qui n'a pas été fait parce que Von Bremen s'occupait de l'épigraphie. Mais ça permet de regarder les textes donc d'une autre manière. Alors, la difficulté pour l'historien est la suivante. La plupart des dossiers concernant les époques antérieures à la seconde moitié du IVe siècle, ou même souvent antérieures au IIIe siècle, sont documentés par des textes issus de la transmission indirecte, les manuscrits, où la part de fiction est importante. Or, cette fictionnalisation a souvent abouti à la caractérisation moderne, et je dis bien moderne, des personnages mis en scène comme des figures totalement fictives ou purement anecdotiques, qui disaient donc autre chose. Ainsi, Phérétimé, citée chez Hérodote comme reine de Cyrène, Artémise, citée comme ayant pris la tyrannie à Halicarnasse, et tyrannie pas du tout dans un sens négatif, mais dans un sens neutre, ou Aristarchée chez Strabon, mythique fondatrice de Marseille, située pourtant par ses auteurs qui en font mention donc dans un contexte historique identifiable, ce qui n'est pas le cas de Pénélope, d'Arétée ou même de Clytémnestre, qui sont aussi des personnages de femmes qui portent des titres comparables. Ces personnages, donc au moins ceux cités par les historiens dans un contexte historique identifiable, ont été néanmoins jugés comme des types narratifs, comme des symboles, celui de la femme barbare, celui de la femme médiatrice, de la reine orientale, etc. Mania, d'ailleurs, a été associée, par son nom qui en grec évoque la folie dionysiaque, la mania, a été associée à la transgression. Alors que plus simplement, son nom, il est attesté dans le Lexicon of Greek Personal Names, 30 fois, il apparaît 30 fois à partir du 4e siècle avant notre ère et jusqu'à la période impériale, et c'est probablement un anthroponyme de la région régionale construit sur le nom du dieu Mène, donc un théonyme construit sur le nom du dieu Mène qui est aussi de la région. Donc parfois, les interprétations, bon, c'est un peu vite. Aujourd'hui, l'existence de femmes détentrices de charge donc, est connue grâce à la transmission directe, c'est ce que je vous ai montré, épigraphie, monnaie, décret. Elle n'est mise en doute par personne, et voilà, c'est un exemple, hein, pour Philistis, cette fois-ci une monnaie, on ne la connaît pas par autre chose qu'une inscription et des monnaies. Cette existence n'est mise en doute par personne au sein de la communauté scientifique, puisqu'on a ce genre de documentation. Et du coup, en retour, ceci nous permet de regarder d'un œil neuf, et peut-être avec moins d'hypercriticisme, les femmes nommées dans les textes de la transmission indirecte. Et la question du coup que ça nous pose, c'est que produit la mise en narration des actions de ces personnages de femmes détentrices de charge ? À mon avis, elle met au jour la complexité et la richesse des points de vue antiques qui étaient déjà portés sur ces femmes. C'est ce que je vais voir maintenant. Alors, le texte de Xénophon sur Mania, gouverneur en Éolide, expose une variété de points de vue, ce qui est rare, sur cette femme. C'est très intéressant parce qu'on est dans un contexte absolument très classique. Hein. On est dans les années 410-399. Et en plus, la narration est portée par un auteur, lui-même, citoyen athénien. C'est vraiment très classique. Je rappelle donc l'histoire. Paragraphe 10. Mania est donc présentée comme veuve de Zénis de Dardanos. Elle est citée sans patronyme, ce qui est intéressant. Elle a deux enfants, on l'apprend un peu plus tard, et elle prépare un convoi, c'est-à-dire qu'elle prend l'initiative d'aller voir Pharnabase pour réclamer la charge de représentant du satrape dans la région. Vous voyez qu'il n'y a pas d'automatisme dans l'accès au pouvoir de Mania. Il ne s'agit pas non plus d'un pouvoir conjoint, elle ne l'a pas eu au moment où son époux était en vie, ni d'un pouvoir hérité. Rien de cela. Deuxième point. Elle s'est déplacée, elle va parler à Pharnabase pour le convaincre qu'elle est la bonne personne pour gouverner la région. Elle agit donc comme un homme l'aurait fait. Autre point. Pharnabase décide donc de lui remettre le commandement et elle remplit parfaitement la fonction. Elle verse le tribut aux Perses. Elle est d'ailleurs... Elle sait beaucoup mieux que les autres gouverneurs lui organiser un accueil. Elle est la meilleure dans son grade, la meilleure des hipparques dans son grade. C'est-à-dire, hipparque, ça signifie N-1. Hein, c'est la N-1 par rapport à Pharnabase. Et au-dessus, il y a le grand roi, évidemment. Et elle est en relation directe donc avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite ? Elle maintient donc le pouvoir de Pharnabase dans la région, ce qui est tout à fait ce qu'on lui demande, mais elle ajoute à sa domination donc d'autres cités, c'est-à-dire qu'elle remporte des succès militaires. Elle rend son armée de mercenaires brillante, c'est remarquable. Elle s'en occupe particulièrement et il lui arrive même parfois de siéger au conseil avec les autres conseillers. Je continue. Selon le narrateur, on reviendra après sur les voix, elle gouverne comme il convient dans une tyrannie. Le terme est employé de manière très neutre. Elle agit comme un vrai tyran doit agir, c'est-à-dire en se méfiant de l'extérieur et en entretenant un cercle de fidèles autour d'elle, sa maisonnée. Bon, ben, voilà, comme souvent, c'est du plus proche que vient le mal. Et effectivement, elle est assassinée finalement par son gendre. Ceci fait, donc là je vous raconte la fin de l'histoire, le genre Médias, donc il s'empare des trésors de Mania, et il va chercher lui-même, il envoie des présents à Pharnabas, c'est-à-dire qu'il va faire la même chose que ce qu'avait fait Mania. Il va voir Pharnabas, le satrape, pour lui demander de lui donner le commandement sur la région. Pharnabas refuse et se pose en ennemi. Son vrai allié était Mania. Dersilidas, le Spartiate, arrive dans la région, c'est ce que je vous ai dit au début. Il arrive pour libérer les cités, entre guillemets, et les cités n'ont pas trop le choix. Hein. Il a une armée, elle se donne à lui, il y a plus trop, voilà, c'est un peu le chaos, et elle se donne à lui. Alors, la mise en scène du récit, là, je suis pas du tout venue sur analyser la mise en scène, hein, je vous ai donné le scénario. La mise en scène du récit évoque, là, on voit bien des points de vue variés que les contemporains donc, avaient de Mania. C'est ça qui est en jeu dans la narration, c'est ça qu'on peut voir. Le premier point de vue, celui du narrateur, le narrateur, c'est l'auteur Xénophon. Il le dit à la fin qu'il est l'auteur de ce texte. Et par des critères externes, on sait que Xénophon voue une certaine admiration aux Spartiates. Donc déjà, ça, c'est l'éclairage général. Il n'a pas de grande sympathie pour le régime athénien, le régime démocratique. Et surtout, on sait ce qui nous intéresse du point de vue aussi de la critique du document, c'est qu'il a lui-même participé à des expéditions dans la région du côté des Spartiates. À partir de 494, il a été enrôlé lui-même dans la région. Et par ailleurs, on sait aussi que d'un point de vue méthodologique, il s'inscrit dans l'écriture de l'histoire, l'écriture du passé de l'histoire qui était celle de Thucydide, c'est-à-dire un compte-rendu des événements de manière assez fidèle, exacte, des événements sans trop s'investir dans le récit. Il le fait parfois, mais pas trop. Donc, le narrateur, le jeu du narrateur ne s'immisce pas tellement dans le récit, en tout cas, on ne le voit pas pour Mania. Il n'y a pas de modalisation qui serait positive ou négative, pas d'adverbe, etc. C'est contrairement à ce qu'on peut voir, par exemple, dans des décrets honorifiques. Hein, où c'est très net, ou qu'on peut voir chez des orateurs attiques qui déprécient des personnages, notamment de femmes. Ce n'est pas du tout le cas ici. Deuxième point de vue, celui de Pharnabas, le satrape de Phrygie. Pharnabas, on le voit, d'après la narration de Xénophon, son point de vue à lui est tout à fait neutre puis positif. Au début, il ne pense pas lui donner le commandement, et puis il lui donne, et puis finalement il l'estime. Il estime, et à la fin même, il veut venger son assassinat, parce que c'était vraiment une très bonne alliée. Point de vue positif, leurs rapports sont fondés sur la loyauté entre alliés. Du côté des mercenaires grecs et des habitants des cités grecques, on a aussi quelques éléments qui nous montrent que ces mercenaires, elles s'en occupent très bien, et quand le gendre va chercher les places fortes où il y a les trésors, les autres villes refusent de le recevoir, c'est-à-dire qu'ils restent fidèles en fait à l'esprit, je voulais dire, de Mania. Hein, ils refusent d'ouvrir leurs portes à l'assassin de Mania, et les garnisons les conservèrent à Pharnabas, qui était le supérieur pour qui travaillait Mania. Et les habitants des autres cités trouvaient que on n'allait pas chercher du côté de Médias parce qu'en en fait, elles étaient plus guère traitées, bien traitées depuis la mort de Mania. Donc il y a un point de vue, une perception plutôt positive des mercenaires et des habitants des cités grecques. Et ça nous amène à rappeler ou toi à dire, c'est pas forcément toujours très clair, très net, que quand on avait une femme en position de pouvoir dans des cités grecques, comme on le voit en Asie Mineure au IVe siècle, effectivement, ces femmes obtenaient des éloges, obtenaient des statues, obtenaient des inscriptions honorifiques, etc. C'était tout à fait normal, et je ne résiste pas à la tentation de vous montrer cet épigramme, le bas de la diapositive, qui a été découverte en 2005 dans la cité grecque de Iasos, au sud de l'Asie Mineure, dans les années 340, qui date des années 340, et cet épigramme qui est en l'honneur d'une famille, d'une dynastie, les Hécatomnides, en Asie mineure, qui domine, et parmi cette dynastie, il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes qui sont honorés, y compris avec des statues. Ici, c'est la base de la statue de Abba, une femme, hein, donc, qui est honorée. Et on a d'autres, ici, la tête de statue, bon, qui est attribuée à Ada, c'est-à-dire la fille d'Abba, et qui se retrouve certainement aussi sur ce monument. C'est une attribution, mais c'est juste pour vous donner quand même un peu une image de ce que mettaient en valeur les Grecs. Du côté du Spartiate Dersilidas, la perception aussi de Mania est totalement neutre. Lui, il vient juste prendre des villes, des places fortes. Il ne fait aucun commentaire non plus dans le texte de Xénophon, bien entendu, sur Mania. Il ne commente pas le fait qu'il s'agisse d'une femme. Et enfin, Le texte mentionne, vous l'avez remarqué certainement parce que je suis passée sans le commenter, le stéréotype qui est véhiculé par certains. Certains, hypotinone, qui, un stéréotype qui est véhiculé, qui est banal. Il était honteux de se laisser gouverner par une femme, et c'est ce stéréotype qui entre dans l'oreille du gendre et dans la narration qui va être un motif du crime. Ce motif-là, il est tout à fait, ce stéréotype bon, sexiste est tout à fait banal. Il renvoie à toute une tradition dont on a déjà eu des aperçus dans les communications précédentes. Chez Hérodote, voilà, une reine fait rétimer qui demande une armée. Le roi Évelton lui envoie un fuseau, une quenouille garnie de laine en lui disant « les armées, c'est pour les hommes ». Donc c'est un stéréotype qu'on connaît. Dans Antigone, Sophocle, vous connaissez cette phrase probablement de Créon le tyran. « Moi, tant que je vivrai, ce n'est pas une femme, Antigone, qui me fera la loi ». Bon, malheureusement, la pièce, elle porte quand même le nom de Antigone. L'héroïne, c'est Antigone. Donc, c'est bien un stéréotype. Aristote, de même, dont on parle souvent, évidemment, lui aussi, il porte ce stéréotype en lui donnant l'autorité d'Aristote, une publicité qu'on connaît quand Thomas est à la femelle. L'un est supérieur par nature, l'autre inférieur. Il y a un qui commande et un qui est commandé. Mais c'est Aristote. C'est Aristote. Voilà, on ne va pas non plus généraliser Aristote. Ce qui est intéressant dans notre texte, et j'y reviens, c'est que le stéréotype, en réalité, il est uniquement écouté par un personnage négatif, le gendre Médias. Ce Médias est un traître, il a trahi la confiance de Mania, il est avide de pouvoir et de richesse, il est entouré d'une mauvaise réputation. Ni Dercylidas, ni Pharnabas, ni le narrateur-auteur Xénophon ne s'étonnent, eux, de la situation de Mania. Conclusion de ce point-là, de cette partie-là, sur les perceptions de la dynaste. D'après la mise en scène du narrateur-auteur, les contemporains qui interagissent avec elle sont très peu sensibles au sexe de Mania qui agit en bon chef. Le narrateur a donc construit, à travers le récit de ses actions, le portrait d'un personnage admiré. Aucun commentaire n'est fait sur le caractère exceptionnel ou surprenant de la situation. Une femme au pouvoir ? Ou sur le caractère qui lui serait spécifique, oriental, barbare. Par rapport aux décrets honorifiques ou aux épitaphes qui font l'éloge d'une femme magistrate aux époques de la grande diffusion de la pratique épigraphique, le récit historique a permis, nous permet, nous à nous, de voir la complexité des points de vue antiques, d'accéder ainsi à la complexité des rapports sociaux et des formes de domination, et donc de donner au stéréotype de genre sa juste place. Dans le texte, il ne fait pas autorité. En revanche, ce stéréotype a des effets historiographiques importants. D'abord, et à juste titre, un certain nombre d'études modernes ont insisté, à l'époque où l'histoire des représentations était en vogue, sur l'océan de discours produit par les hommes grecs sur les femmes, sur le fait que le discours masculin tendait à répéter à l'infini le blâme de la race des femmes. Ces discours existent. Mais surtout, une partie des historiens contemporains ont souvent pris ces discours comme reflétant l'opinion générale, comme s'ils faisaient autorité dans l'Antiquité. Les femmes auraient été effectivement toutes perçues comme faibles. Les hommes grecs n'auraient évidemment pas pu imaginer être gouvernés par une seule d'entre elles, comme l'écrit Aristote. Par conséquent, les femmes sont toujours hors champ. Hors champ du pouvoir, ce n'est pas possible, Aristote. Hors champ de la domination, Aristote, elles ne peuvent pas. Et pas loin d'être hors champ du champ social, du coup, de manière plus générale. Et je vous donne un exemple. Quand Échine, dans un discours du IVe siècle à Athènes, décrit, je ne rentre pas dans le contexte, décrit aux côtés des magistrats ordinaires de la cité, tous ceux qui doivent rendre des comptes, il évoque les prêtres et les prêtresses aux côtés des autres magistrats. Il évoque aussi les triérarques, donc des liturges, etc. Tous ces gens-là doivent rendre des comptes. Pourtant, en 2004, un livre de référence commentait ce passage en indiquant « Chacun des 700 magistrats athéniens doit naturellement rendre des comptes, on est tous d'accord, mais aussi les prêtres ». Les ambassadeurs, les membres du conseil, les membres de l'aéropage, les triérarques. Et les prêtresses ont disparu. Alors, Alors, les femmes de pouvoir, attestées par les documents antiques, ont souvent été perçues comme des cas exceptionnels en termes statistiques, ce qui est vrai. Mais ça, donc, non seulement elles sont des cas exceptionnels en termes statistiques, ce qui est vrai, elles accédaient bien moins souvent que les hommes aux fonctions de pouvoir. Mais aussi, elles ont été perçues comme des, en termes de normes sociales. Si elles détenaient une charge, c'était qu'elles étaient des figures transgressives, hors normes. Et souvent, dans ces cas-là, des figures masculines ou masculinisées, qui nous disaient autre chose en tout cas, mais qui n'étaient pas vraiment féminines. Pas des vraies femmes, en tout cas. Or, dans les documents, dans les récits d'historiens antiques, dans les inscriptions, il est rare que ces jugements négatifs, lorsqu'ils sont présents, ce qui n'est pas du tout toujours le cas, souvent ils ne sont pas présents, mais s'ils sont présents, ils sont rares qu'ils ne soient pas pris dans des points de vue polémiques. On vient de le voir pour Mania, c'était son gendre qui en fait voulait tout simplement le pouvoir parce qu'il a non seulement tué Mania, mais il a aussi tué son fils, qui avait l'âge de devenir bientôt le roi après la reine. Et on le connaît dans le cas de Créon et Antigone. Voilà, des points de vue polémiques. Enfin, le stéréotype a renforcé l'idée que femmes et hommes constituaient des groupes à la fois radicalement distincts entre eux et chacun homogène pour eux-mêmes. Une femme ne pouvait être envisagée autrement que membre du groupe des femmes, comme si une féminité essentielle la caractérisait. Ainsi, certains ont expliqué que si Mania avait été assassinée, ce n'était pas parce qu'elle était chef et qu'il y en avait d'autres qui voulaient être chef à la place du chef, mais c'est parce qu'elle était trop féminine, donc trop faible. Elle aurait été trahie par sa gentillesse. Elle avait trop confiance en son gendre. Donc, une qualité spécifique des femmes, trop gentille. Et ça, je vous ai mis donc le commentaire de Cartledge. Elle était « too typically a woman ». C'est pour ça que « she met her hand ». She was fond of a son-in-law, as a woman would be. Bon. Alors, cette polarisation de la société en deux groupes, les femmes et les hommes, est anachronique dans des sociétés, les cités grecques, constituées, je dirais, plutôt à l'image des sociétés d'Ancien Régime, qu'on connaît mieux, par des groupes statutaires, socialement hiérarchisés. Au sein de ces sociétés, la frontière prédominante, qu'on oublie souvent, c'était la frontière quand même entre libre et esclave. Donc il y avait quand même des hommes esclaves aussi, et des femmes libres qui étaient maîtresses d'esclaves, qui pouvaient les revendiquer, les libérer et les acheter. Bon, ça c'est juste un premier point en passant. Par ailleurs, des femmes libres disposaient de la capacité financière et intellectuelle et accédaient à des positions d'autorité et de pouvoir, tout simplement par la logique de l'appartenance familiale à un groupe privilégié. Et c'est évidemment le cas des prêtrises, très souvent, des prêtrises héréditaires. Elles bénéficiaient alors, dans cette fonction, de l'estime publique, mais de toute façon tout à fait normale, je dirais. Ainsi, la fameuse prêtresse d'Athéna Polias à Athènes, on est quand même à Athènes, la toute première moitié du IVe siècle, Lysimaché, dont la statue réalisée par le grand sculpteur Démétrios d'Alopéquet est vue encore par Pausanias au IIe siècle de notre ère sur l'Acropole, avec une inscription un peu effacée aujourd'hui, mais qui la mentionne. Alors, certains historiens ont longtemps dit et écrit que la cité était un club de citoyens et un club d'hommes. Dans une démocratie telle que celle qu'auraient mis en place les Athéniens à partir du Ve siècle, l'accès de tous les citoyens masculins aux charges politiques, quelle qu'ait été leur richesse, aurait été en quelque sorte payé par l'exclusion des citoyennes de l'ensemble de l'espace public et, je dirais, politique, civique, police. De ce point de vue, Mania est étonnante. C'est vrai, de ce point de vue, Mania est étonnante. Mais l'exemple de Xénophon, Mania via Xénophon, nous montre que ce n'était pas le cas pour les Grecs. Donc, la cité n'est pas un club d'hommes. Il existait des femmes, des détentrices de charges publiques. Il a fallu attendre la toute fin du XXe siècle que la critique féministe nous ouvre les yeux sur la construction sociale du genre pour que nous puissions enfin identifier le caractère sexiste des énoncés généraux, hommes dominants, femmes dominées, et leur reconnaître enfin le statut de stéréotype. Et un stéréotype, précisément parce qu'il est un stéréotype, fait rarement autorité. On le sait bien, il fournit un cadre. Les points de vue antiques sur l'hipparque mania en éolide à la fin du Ve siècle met donc en valeur, par le récit de Xénophon, le fait que si l'accès aux charges était absolument inégalitaire entre hommes et femmes, mais aussi entre riches et pauvres, une fois qu'une femme était en fonction, elle était considérée dans sa fonction, comme un homme dans la même fonction, et non comme une femme. Le commandement, arché, n'avait pas de sexe. Les cultes publics, qui rendaient les dieux et les déesses garants de l'ordre civique, expriment cela très banalement et de manière quotidienne, hein, en figurant des déesses également sur des trônes, sur les temples et sur les vases, enfin, etc. Voilà, je vous remercie.